Frères et sœurs, les amis, j'aimerais en ce deuxième dimanche de carême m'arrêter sur les quelques versets de la seconde lecture de la lettre de saint Paul à Timothée, lettre dont nous écoutons simplement 3-4 versets, mais qui sont très forts et très beaux et que j'aimerais partager avec vous. Alors, le contexte est toujours le même, c'est-à-dire que Paul est en prison. Et il sait qu'il sera prochainement exécuté. Et il donne à son ami très cher Timothée, j'allais dire, ses dernières recommandations. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Alors le mot souffrance, évidemment, nous ne l'aimons pas. Personne n'a envie de souffrir, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est souffrance au sens de persécution, c'est-à-dire que celui qui a revêtu le Christ le jour de son baptême, s'il n'a pas compris et vécu à un moment ou à un autre de son existence le fait que suivre le Christ entraîne inévitablement, s'il est véritable disciple du Christ, bien sûr, entraîne inévitablement, d'une manière ou d'une autre, une persécution. Elle est inévitable. Alors, on peut se poser la question, pourquoi il y a des pays où les chrétiens ne sont pas persécutés? Alors, est-ce que ça veut dire que ils sont parfaitement christianisés? Ça m'étonnerait. On a quand même du mal à le croire. Ou bien, notre annonce de l'Évangile ne serait-elle que superficielle ou édulcorée? C'est quand même deux questions qu'on peut se poser. Alors, si vous avez fait attention à la lecture, il y a une sorte d'inclusion, puisque l'expression « l'annonce de l'Évangile », c'est le deuxième point de notre méditation, l'expression « l'annonce de l'Évangile » se retrouve à l'identique à la fin du passage. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Et le dernier verset que nous entendons, en faisant resplendir la vie et l'immortalité pour l'annonce de l'Évangile. Par l'annonce de l'Évangile. Donc c'est la première expression, c'est pour l'annonce de l'Évangile. Et la dernière, c'est par l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas pour rien que c'est construit de cette manière-là. Cela veut donc dire qu'entre ces deux expressions, ces deux, l'annonce de l'Évangile, eh bien, le passage central est encadré par ces deux expressions et va détailler ce que c'est que l'Évangile. Alors, ce que c'est que l'Évangile, bon, vous le savez, c'est une bonne nouvelle, on le sait très bien. Mais il peut se résumer en cette phrase, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés. Autrement dit, la finalité du projet de Dieu, hein, parce que Dieu a un projet sur nous, c'est de nous sauver. Mais notons que c'est écrit au passé, ça veut dire que c'est acquis. Mais en même temps, pour que les hommes entrent dans ce salut, il faut bien évidemment que l'Évangile leur soit annoncé. Donc, il y a une sorte d'appel à une vocation sainte qui nous investit, d'abord par notre baptême. Dieu nous a sauvés et nous a donné une vocation sainte. Alors, la vocation sainte, ça ne doit pas nous faire peur, c'est tout simplement parce que cette vocation est confiée par Dieu qui est le seul saint, que Dieu demande notre collaboration, mais aussi que vocation sainte signifie que le projet de Dieu sur l'humanité est tellement grand qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut même pas le concevoir, qu'il mérite bien cette appellation. Mais fondamentalement, il mérite cette appellation parce que Dieu seul est le saint. Donc, vous voyez, la vocation de toute l'humanité, in fine, et de ne faire plus qu'un en Jésus-Christ, puisque nous sommes les membres de son corps. Alors, les membres de son corps, puisqu'ils sont justement des membres, ils sont attachés à ce même corps qu'est Jésus-Christ, hein, toujours des paraphrases autour de la symbolique du baptême, symbolisée par la robe baptismale par exemple, qui couvre le corps de la personne qui est baptisée et que nous formons non seulement les membres du corps du Christ, mais nous formons le corps du Christ ici-bas. Telle est la vocation particulière, bien évidemment, de chaque baptisé, mais plus spécialement encore de chaque apôtre. Alors le projet de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu nous a sauvés. Et dans la Bible, nous savons que sauver, ça veut dire libérer. Hein, c'est la libération. On aura l'occasion d'y revenir au moment de Pâques, puisque la Sainte Nuit de Pâques, c'est fêter la libération du peuple d'Israël, du joug des Égyptiens, pour découvrir la liberté au travers de la terre promise. Mais cela aussi, puisque nous sommes en temps de carême, nous fait revenir pour examiner toutes les sortes d'esclavages qui sont les nôtres aujourd'hui, qui peuvent être des esclavages pernicieux, on le sait que trop, mais aussi des esclavages religieux, hein, on le voit bien par des religions qui sont de véritables carcans et non pas un lieu et une expression de liberté et de libération comme peut être notre foi chrétienne catholique. Je terminerai par ceci qui me semble très beau, c'est le verset 9, cette grâce. Deux fois le mot est employé, qui nous a été donné dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Donc c'est une allusion au projet de Dieu qui, avant même que nous existions, Dieu a un projet pour chacun et chacune d'entre nous. Et le verset nous dit que ce projet a été rendu visible à nos yeux, car c'est bien beau d'avoir un projet dans le cœur ou un projet dans l'esprit et dans l'intelligence, mais il a été rendu visible, il est devenu visible à nos yeux par la manifestation de la personne même du Christ. Et Saint Paul donne le détail en détruisant la mort. Donc, détruisant la mort, c'est aussi ce que nous fêterons dans la Sainte Nuit de Pâques, c'est la victoire par la mort du Christ crucifié, et donc par sa résurrection, la victoire de la vie sur toute espèce de mort. Sa mort et sa résurrection est toujours le thème fondamental de la Pâque, puisque mort et résurrection, c'est un passage. Je passe de l'état, entre guillemets, de mort, à l'état de ressuscité. Alors voilà la grâce de Dieu, voilà le projet qui est manifesté et que Saint Paul nous rapporte à Timothée. Alors vous me direz quel est le rapport, je terminerai par là, avec l'évangile de la transfiguration. Eh bien, justement, le rapport est très clair, c'est le Christ a montré à ses apôtres et amis bien-aimés qui sont là à assister à cette transfiguration, que ce corps, qui est le corps divin du Fils, du Père, qui nous est révélé et qui vit notre condition d'homme, va manifester aux apôtres son corps de gloire, c'est-à-dire qu'il anticipe par la transfiguration ce passage entre sa vie d'homme sur la terre, avec sa mort bien évidemment, mais que la mort ne ferme pas, au contraire, elle ouvre, puisqu'elle est un passage, elle ouvre les portes de la gloire. Alors bien sûr, il était important que cette manifestation puisse avoir lieu pour conforter le cœur des disciples en fonction des événements que le Christ allait vivre et que nous vivrons de la manière la plus intense possible, je l'espère, pour chacun de vous au moment de la Semaine Sainte. Amen.